D'abord, maintenant, je vais traiter avec naturellement un certain nombre d'éléments, mais de façon fort incomplète, assurément, des concordances que l'on peut découvrir entre la Bible et la science. Sous-entendu, bien sûr, tout ce qui a été dit d'un côté comme de l'autre, de ce qui est vérité du côté de la science parce que cela vient d'une observation ou d'une expérimentation réelle, sans interprétation, et puis du côté de la Bible, cela vient de l'écoute de la parole de Dieu. Alors, nous allons reconnaître certaines concordances entre les deux grandes sources de connaissances. La Bible n'a pas pour dessein de nous instruire des merveilles de la création et des structures du monde. Pourquoi cela? Nous l'avons vu. Parce qu'elle abandonne cela à notre observation. Nous avons déjà dit que Dieu abandonnait des choses à l'homme, les choses qu'il peut faire. Et comme l'a souligné notre frère Monsieur Peter Schmitt, des choses que pour lesquelles l'homme est armé par Dieu. Il est armé par l'intelligence dont il dispose et la raison qui est à son service. Toutefois, Dieu aimerait qu'en observant la nature, nous en retirions un fruit spirituel, ça c'est certain. C'est pas toujours le cas. L'homme est armé, et Dieu voudrait qu'il en retire un fruit spirituel. Et le travail scientifique des hommes, malheureusement, s'abstient de le faire, toujours pour la même raison, sous la pression de préjugés ou en raison de limites que l'on s'est données. Et l'on peut dire que l'homme est là à même la nature, il voit la nature, il peut y découvrir les perfections invisibles de Dieu, les œuvres grandiose, réelle de Dieu, mais il rend la vérité captive. Il rend la vérité captive. Et comme c'est vrai, vous voyez, c'était vrai au début de notre ère, et ça l'est toujours, et même de plus en plus, malheureusement maintenant. Parce que je vois en biologie, par exemple, il y a eu récemment des découvertes très intéressantes, et on ne veut pas ces découvertes en faire le motif d'une reconnaissance de la puissance de Dieu. Observer et comprendre la grandeur et l'amour de Dieu, c'est à quoi l'Esprit de Dieu nous invite. Voyons dans Job, chapitre 12 et verset 7. Chapitre 12 et verset 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait ces choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Voilà ce qui devrait découler de cette possibilité dont dispose l'homme de s'instruire, d'apprendre, d'observer la nature et les structures du monde. Le cadre de vie donné à l'homme est bien un témoignage de l'Éternel. Non seulement c'est le cadre de sa vie, mais il est aussi un témoignage de l'Éternel. Mais quant aux connaissances d'ordre pratique, comme devrait l'être d'ailleurs, toutes les connaissances acquises par l'étude, Dieu en abandonne la recherche à l'homme. Ce sont des connaissances qui sont à sa portée, et il dispose pour cela de l'intelligence. Cependant, il était inévitable que, en certains passages, la Bible fasse apparaître des éléments de connaissances rapprochant des connaissances que l'homme peut recueillir par lui-même. Ces éléments peuvent être rapprochés des connaissances, par conséquent, acquises par l'homme, et il peut y avoir lieu à comparaison. Alors, c'est ce que nous allons faire un peu. Nous allons voir quelques comparaisons sur des objets limités ou bien précis, et puis peut-être sur des objets plus larges. Premièrement, la constitution de la matière. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 3, nous pouvons lire ce verset qui est bien connu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Différentes versions traduisent comme ceci, « Ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. » Ceci, c'est la Bible en français courant. On peut retenir ceci, « Ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. » Ce que l'on voit, dit la Bible de Jérusalem, provient de ce qui n'est pas apparent. Et dans la colombe, ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce qui se voit, dit aussi Darby, n'a pas été fait de choses qui paraissent. Enfin, ça revient au même. Le visible est donc sorti de l'invisible. La matière est sorti de la parole de Dieu. Si nous examinons cette question d'un peu plus près, par exemple avec Jérémie chapitre 10 et verset 12, Jérémie chapitre 10 verset 12, nous comprenons déjà un peu plus profondément ce qui a pu se produire, ce qui s'est produit. Chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Voilà ce que dit Jérémie. Quant au livre des Proverbes, au chapitre 3, je lirai le verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Comme il est constant dans la langue hébraïque, il faut toujours faire, quand il y a deux énumérations en regard, il faut toujours faire la somme de la première énumération et la somme de la seconde. Si bien que il faudrait comprendre ceci, c'est par la sagesse, c'est par l'intelligence, c'est par la science que l'Éternel a fondé la terre, a fermé les cieux et ouvert les abîmes. Donc, Jérémie nous dit que Dieu a fondé la terre, le monde, étendu les cieux, par puissance, sagesse, intelligence. Alors, ce matin aussi, notre frère a parlé de conception. Il y a à la base de toute œuvre une conception. Donc, le monde a été créé par l'intelligence divine en raison d'une conception et d'un plan créateur, ce qui se confirme dans le prophète Ésaïe. Ensuite, Dieu a créé en utilisant sa grande sagesse, c'est-à-dire dans un parfait équilibre et selon le plus grand mobile de toutes les œuvres de Dieu, le mobile unique, on peut dire, constant de toutes les œuvres de Dieu, l'amour. Le grand mobile de Dieu, c'est l'amour, selon la sagesse divine. Et la sagesse est toujours ce qui exprime et ce qui ouvre la porte à l'amour. Et ensuite, nous voyons qu'est intervenue la puissance divine, ou, si vous voulez, l'énergie, la puissance divine ou l'énergie. Dans le chapitre 32 de Jérémie, je lirai au verset 17, 32, verset 17, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Puissance ou énergie, nous pouvons très bien comprendre énergie. Dans le psaume 65 et au verset 7, psaume 65 et au verset 7, nous avons « Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint, C-E-I-N-T, il est saint de puissance. » Force, puissance, énergie. N'ayons pas là à l'esprit les distinctions à faire sur le plan de la mécanique, mais pensons que Dieu a utilisé un matériau, un grand matériau, son grand matériau, qui est l'énergie. Et lui qui est source d'énergie. Il a utilisé l'énergie pour réaliser un plan conçu par lui, et cela dans la sagesse divine. C'est pourquoi le récit de la création comporte « cela est bon, cela est bon, cela est très bon ». En somme, donc, Dieu fit le monde par le matériau universel qui vient de lui, dont il dispose, et qui est l'énergie. Par sa parole, il ordonne, et il dispose de ce matériau, l'énergie, pour construire le monde, pour créer, il édifie le monde au moyen de l'énergie, ayant ordonné, il ordonne, et la chose se fait. Or, la matière est précisément un assemblage d'atomes, ce que l'Épître aux Hébreux disait depuis le premier siècle de notre ère, alors que les hommes étaient loin de savoir de quoi l'atome pouvait être fait. La matière est un assemblage d'atomes. L'atome lui-même est en fait d'un noyau autour duquel gravitent des électrons en plus ou moins grand nombre et selon des éloignements du noyau différents. Ce noyau est lui-même fait de diverses particules, et ces particules, les particules qui composent le noyau, sont des grains d'énergie. Nous savons, aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui, il y a de ça déjà pas mal d'années, au moyen d'un appareillage approprié, on peut voir des particules apparaître et disparaître, c'est-à-dire en somme de la matière se faire et se défaire. Je pense particulièrement aux expériences faites sur les maisons, les particules, les maisons. Alors ce noyau qui est fait de particules est donc en somme composé de grains d'énergie. Ainsi la matière est une réalité due à l'énergie condensée, c'est-à-dire à ce qui est immatériel. Et nous en avons la démonstration par cette énorme libération d'énergie qui se fait par le moyen de l'explosion d'une bombe atomique. Il y a là perte de masse, une masse qui est perdue et qui se libère brusquement en énergie. Donc de la matière disparaît et de l'énergie apparaît. Le terme atome figure dans le chapitre 8 et au verset 26 des Proverbes. Il est dit que Dieu n'avait pas encore fait le premier atome de la terre. Tous les traducteurs n'ont pas utilisé ce terme, la Bible de Jérusalem met les premiers éléments de la poussière du monde. Entre les atomes et à leur échelle, il y a énormément de vide. Énormément de vide. À l'échelle des atomes. Quand je pense au nombre d'Avogadro qui nous indique combien à la pression de 76 cm de mercure, il y a de molécules dans un centimètre cube d'air, hein, c'est quelque chose de fabuleux, le chiffre ne l'est plus en tête, hein, mais il est très important, et dans ce centimètre cube d'air, eh bien, si on pouvait y être, nous verrions qu'il y a énormément de vide. Il y a d'ailleurs un mouvement de ces particules aux températures qui sont les nôtres en général, un mouvement qu'on a appelé le mouvement brownien. Entre les atomes, donc, et à leur échelle, il y a beaucoup de vide. Si, par exemple, on mettait le noyau de l'atome à, Marseille, et que ce noyau soit de la grosseur à peu près d'une prune, eh bien, l'électron lui-même se trouverait, à presque à Avignon, voyez-vous, à Salon de Provence, voyez la distance qu'il y aurait entre eux. Une distance énorme. Déjà, donc, au sein de l'atome, il y a du vide. Entre les atomes, il y a aussi énormément de vide, et vous avez des particules qui circulent là, à toute allure, sans rien toucher, dans ce vide. Et pourtant, cette structure-là est bien celle de la matière qui, pour nous, est palpable. La Bible, donc, elle nous montre comment Dieu a créé le monde et avec quoi il a créé. Avec de l'énergie dont il a disposé, qui est venue de Dieu, et Dieu est esprit. Rappelons le mot du physicien astronome anglais Eddington, l'étoffe de ce monde est de l'étoffe de l'esprit. L'étoffe de ce monde est de l'étoffe de l'esprit. Et ça, c'est une chose que tout chrétien devrait avoir constamment présent à l'esprit. Parce que Jean nous dit dans son premier chapitre, l'évangile de Jean, et au verset 3, « Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, la parole de Dieu, hein, et tout ce qui existe a été fait par elle, et la parole de Dieu est Dieu, et Dieu est esprit. » En conséquent, c'est vrai que l'étoffe de ce monde est de l'étoffe de l'esprit. Si nous étions vraiment, si tout le monde était convaincu de cela, il n'y a pas qu'Eddington d'ailleurs qui a affirmé cela, eh bien peut-être tout de même aurait-on d'autres idées, d'autres vues. Il est possible que cela dirige autrement les pensées de bien des gens. Cela, en tout cas, la Bible proclame depuis des siècles. L'étoffe de ce monde est de l'étoffe de l'esprit. Nous rapprochons donc encore cette constatation du second verset de la Bible, qui est celui-ci, Genèse 1, 2, « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Et cela avant toute œuvre d'organisation sur cette masse, sur cette nébuleuse obscure, ça correspond à cela, qu'était la Terre à ce moment-là. Notre monde matériel est donc repu de puissance, d'énergie. Il est repu d'énergie. Nous en sommes nous-mêmes environnés. La matière, la lumière, le rayonnement solaire, la radioactivité, la vie, nous sommes environnés de cette énergie, et je le redis, matériaux universels que Dieu utilise. Tous les actes de Dieu, la Bible nous le montre, sont des actes de puissance, donc d'énergie. Et Jésus nous invitait à comprendre cela. Je prends Matthieu, chapitre 22, et verset 29. Là, au sujet de la résurrection, Jésus dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez rien dans les Écritures, ni dans la puissance de Dieu. Écriture, parole d'une part, puissance de Dieu, réalisation d'autre part. Et si vous ne comprenez rien là, vous ne comprenez pas ce qui est, ce que Dieu désire que nous comprenions. Dieu met aussi à notre portée certains aspects de ses œuvres. Il veut que nous comprenions. La puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, en grec, s'appelle dynamis. Dynamis. Et vous voyez que ce terme est la racine de pas mal de mots que nous employons encore aujourd'hui. Dans Matthieu, chapitre 6 et verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, c'est-à-dire la dynamis. » C'est à toi qu'appartiennent la puissance dans tous les siècles et la gloire. Dans Luc 22, je ne veux pas vous prendre tous ces passages, Luc 22, 69, 24, 49, nous avons toujours ce terme dynamis. Dans Romains 1, 20 aussi, dans 2 Corinthiens 4, 7, enfin bien d'autres passages, la grande puissance de Dieu est à l'œuvre dans toutes les réalisations de Dieu, et dans cela, dans tous les temps bibliques. Le psaume 145 nous parle de la puissance redoutable, et ce psaume invite les générations à venir à proclamer la grande puissance de Dieu pour faire connaître sa puissance. Il y a donc primauté de l'énergie sur la matière. Le premier acte créateur que nous indique la Genèse est la création de la lumière. Cela avant l'apparition du ciel, ça pose quelques problèmes pour certains, avant l'apparition dans le ciel des luminaires et du soleil et de la lune. Cette forme essentielle d'énergie, la lumière, est primordiale. Et nous voyons là qu'il y a primauté à la lumière aussi sur la matière. Primauté à l'énergie sur la matière, primauté à la lumière sur la matière. Toutes les œuvres de Dieu commencent toujours par que la lumière soit. L'œuvre du salut aussi. Dieu a fait briller dans nos cœurs la face de Christ, et à cet égard, Paul rappelle ce commandement que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a fait briller dans nos cœurs
Et le, dans des psaumes aussi, nous avons ce désir d'être à la lumière des vivants. La lumière exerce constamment un pouvoir de transformation sur la vie. De cela, nous avons bien sûr une attestation constante dans le travail de la photosynthèse chlorophyllienne chez les végétaux. Les plantes se nourrissent de ce qu'elles puisent, des matières minérales qu'elles puisent dans le sol et qui montent jusque dans les feuilles. Et là, la lumière intervenant, la lumière du soleil intervenant, ces plants, la chlorophylle élabore la sève vivante à partir de ces éléments chimiques tirés du sol. Éléments chimiques que sont, mettons, la potasse, les phosphates, les nitrates. Le premier acte de l'action créatrice, donc, est que la lumière soit. Et différents passages dans le Nouveau Testament nous rappelle cela. Dieu est lumière, par exemple. La lumière qui baigne la terre en encore informe au premier jour n'a pas de source. C'est ce que je disais dimanche après-midi à quelqu'un qui nous questionnait à ce sujet, nous faisant remarquer que les luminaires n'ont été placés qu'au quatrième jour de la création. Alors, dans Ésaïe, par exemple, 60, chapitre 60, verset 19, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » Il s'agit là, c'est une allusion à la nouvelle terre, nous retrouvons cela dans l'Apocalypse, mais croyons bien que le cadre que l'Apocalypse nous décrit sous la désignation de la nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, ce cadre est un cadre concret. Non pas, il ne s'agit pas là d'une description qu'il faut entendre comme uniquement et n'ayant d'autre portée qu'une signification symbolique, pas du tout, parce que cadre concret, il le faut, étant donné que les hommes seront ressuscités, ils seront dans des corps appelés célestes et spirituels, pour des raisons très apparentes dans l'Écriture, corps céleste, corps spirituel, corps qui ne peut plus mourir, mais corps tout de même, le Seigneur Jésus l'a bien montré, ce n'est pas quelque chose d'immatériel, il y a là, les corps ont une substance tout à fait différente, ils ne sont plus tirés de la poussière de la terre, certes, mais ce sont quand même des corps. Résurrection, c'est une promesse, absolument formelle, et non seulement cela, mais qui a une place importante dans les œuvres encore à venir de Dieu. Eh bien, pour mettre des hommes qui ont des corps, il faut un cadre concret. Et enfin, dans Ésaïe 45, verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Nous voyons qu'une affirmation ici, dont nous ne comprenons pas tout de suite l'intérêt. Dieu a créé la terre pour qu'elle ne fût pas déserte, il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Et pourtant, nous sommes fondés à voir ici que la présence de la vie n'a pas été constatée ailleurs. Ces versets nous montrent que la terre a le privilège de porter la vie, d'être le cadre de la vie. Le biologiste Vondel pense que la terre jouit d'un privilège et que la vie n'a pu apparaître que sur elle. On a trouvé sur des météorites des matières carbonées, mais ces matières ont une origine abiotique, ne provenant pas de la vie. Sur Vénus, par exemple aussi, que l'on connaît un peu mieux maintenant, la température atteint environ plus 475 degrés, la pression 90 atmosphères, et il n'y a pas de traces d'oxygène. La vie telle que nous la connaissons sur la Terre ne peut pas, évidemment, exister dans ce cadre. Voyons maintenant quelques avis d'hommes de science. D'abord, le géologue Paul Termier. Sur cette question de concordance entre Bible et science. La foi chrétienne n'a pas à redouter les progrès de la géologie. L'histoire de la Terre a une valeur apologétique spéciale. La Terre raconte la gloire de Dieu, tout aussi éloquemment, plus éloquemment peut-être, que le firmament étoilé. Rien mieux que cette histoire ne témoigne de l'ordre du monde. Elle peut donc être utilisée par le chrétien mieux que la plupart des autres sciences, défendait la géologie bien sûr, pour raffermir sa propre foi et pour préparer à la croyance les hommes de bonne volonté qui l'entourent et qui, simplement et humblement, cherche Dieu, ceux qui cherchent Dieu, à qui, d'après cet auteur, on peut montrer ces choses, ne peut qu'être déjà mieux engagé vers l'exercice de la foi. Et il a écrit cela dans un ouvrage intitulé « Mélange » et paru en 1932. James Dana, auteur américain, déclare « Il ne peut y avoir de réel conflit entre les deux livres du grand auteur. » Ce qui a déjà été dit ici. L'un, la révélation de Dieu à l'homme. Le second, la nature, la création. Le naturaliste H. Wegmann, le mystère de la vie, qui a été publié par l'éditeur Payot en 1954. Cet ouvrage, je l'ai dans ma bibliothèque. Nous avons ceci. La convergence entre la pensée biblique et la pensée biologique de notre époque est frappante. La foi biblique n'est pas seulement d'accord, d'une façon très évidente, avec la pensée biologique, elle la complète, en même temps dans un passage capital. La foi connaît la puissance cachée à laquelle nous pouvons attribuer avec confiance la merveille de la réalisation organique. Avec l'éveil de cette foi, le problème fondamental que nous pose tout processus de formation organique est résolu, non seulement en apparence, mais en fait. Je vais maintenant parler d'un autre point de rapprochement seulement, peut-être pas tout à fait concordance, mais rapprochement, celui de l'existence de l'âme. Trois significations principales. La première, celle-ci, l'âme est le principe de vie, ou le souffle de vie, traduction du terme nefesh dans l'hébreu. Par exemple, le passage que l'on connaît bien, Lévitique 17:11, l'âme de la chair est dans le sang. Certains traducteurs écrivent « la vie de la chair est dans le sang », la version de Jérusalem par exemple.
Alors, ici, l'âme, c'est le terme nefesh, le souffle de vie. Dans le Nouveau Testament, nous avons d'autres exemples de cela, par exemple, Matthieu, chapitre 16 et verset 26, chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors ici, nous rapprochons cela d'un passage parallèle qui est dans Luc chapitre 9 et verset 25, où il est parlé de l'existence. Par exemple, voyons-le ce passage, Luc chapitre 9 et verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Voilà un passage parallèle qui nous montre que le sens donné dans Matthieu à âme, c'est bien le principe de vie, l'existence, principe de vie. Darby, d'ailleurs, met une note à Matthieu 16, 25, où il... une note par laquelle il indique que dans Matthieu 16, 25, il faut comprendre vie et âme. La version de Jérusalem traduit par vie. Alors, deuxième signification du mot âme, l'homme tout entier. L'homme. Mais surtout, la partie pensante de l'homme, qui est le siège de son moi, de sa vie personnelle. Aujourd'hui, on parle encore des êtres humains en employant le mot âme, on dit une âme, nous disons encore cela, pour désigner la personne tout entière. Troisième signification du mot âme, la partie immatérielle de l'homme où se situe la pensée. Où se situe la pensée, l'action émotive et l'élévation vers Dieu. Alors, puisque nous avons Matthieu, prenons Matthieu chapitre 10 et verset 28, chapitre 10 et verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Nous voyons donc là une distinction, une différenciation établie entre l'âme et le corps. L'âme désigne donc la partie immatérielle de l'homme. Alors, ces trois sens sont en rapport avec le fait que l'homme est une trinité. L'âme étant le siège de la personnalité humaine, étant la conscience, le siège de la conscience de soi-même, de l'intelligence, de la pensée, de l'émotivité, de l'affectivité, de la volonté. L'âme a toujours à choisir, nous dit ici le Seigneur Jésus, entre la vie et la mort, entre marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. L'esprit, lui, est le siège du sentiment de Dieu. Je vous dis ça très rapidement. C'est aussi lui que Paul désigne par l'expression « l'homme intérieur ». Dans Romains 7, 22, 2 Corinthiens 4, 16, Éphésiens 3, 16, l'homme intérieur. L'existence humaine, l'existence de l'âme humaine est-elle maintenant reconnue ou non par la science ? Bien sûr, généralement non. Mais aussi, par certains, oui. Toutes les conceptions matérialistes, rationalistes, évolutionnistes suppriment l'existence de l'âme comme une entité immatérielle. L'évolution matérialiste considère que la pensée et les aspirations idéalistes ou spirituelles de l'homme sont le produit du cerveau et de ses organes. Il y a donc conflit avec la Bible à ce sujet, mais ce conflit vient des thèses interprétatives comme on l'a dit aussi, ici, des thèses interprétatives des connaissances anatomiques et biologiques, mais non pas, ne provient pas du langage même des faits scientifiques. Et si l'on veut mieux connaître le langage des faits scientifiques, eh bien, il faut s'adresser évidemment à certains auteurs qui l'ont recherché et qui ont réussi tout de même à le mettre partiellement en évidence. Je pense d'abord à Henri Baruch, membre de l'Académie de médecine, psychiatre, professeur de psychiatrie, qui déclare ceci. Dans nos travaux de neurochirurgie sur les localisations cérébrales, dans notre thèse sur les troubles mentaux dans les tumeurs cérébrales, comme dans nos études en Hollande à l'Institut du cerveau, nous avons vu les limites de l'interprétation cérébrale. Nous avons constamment souligné le fait que l'hypertension intracrânienne des tumeurs cérébrales détermine un ralentissement de l'expression dans la confusion mentale, mais cela sans atteindre la personnalité. La personnalité, ailleurs, le même auteur parlera carrément de l'âme. Ici, il emploie ce terme personnalité. D'ailleurs, il n'est pas seul à avoir conduit ses travaux. Il était notamment avec un autre chercheur en psychiatrie, Babinski. Sans atteindre la personnalité qui continue de lutter contre cette résistance. Ces faits ont été confirmés par Vermeulen de Bruxelles. L'âme, voyez ici même il reprend le mot âme, l'âme reste donc derrière toutes ces manifestations. Le XIXe siècle et le début du XXe, oui, je ne vais pas vous lire tout le passage de cet auteur, ça ferait peut-être un peu trop. Je vais vous lire à partir d'un passage un peu plus éloigné. L'évolution matérialiste de la pensée scientifique avait donc éliminé la notion de l'âme. Et ainsi, les manifestations spirituelles de l'homme étaient censées être le seul produit du cerveau. Or, les travaux modernes montrent que cette systématisation matérialiste est fausse. Notons ceci par exemple. L'hypertension intracrânienne des tumeurs cérébrales provoque certes un ralentissement de l'expression sans aucunement atteindre la personnalité. Bon, ça c'est une redite de ce que j'ai lu tout à l'heure. L'âme reste derrière ces manifestations pathologiques. Dans des cas d'aphémie ou d'aphasie, le malade peut être privé de la parole et des moyens de communication avec ses semblables, pourtant son âme reste étonnamment vivante, vibrante dans son amour exalté et dans la plus haute élévation spirituelle. Et je ne peux pas ne pas céder à plaisir de vous lire ce qu'ensuite a écrit Henri Baruch, qui a été publié en 1981. C'est alors. Alors, c'est le psychiatre devient l'homme de foi, il est un israélite. C'est alors que l'on touche le message des grands inspirés hébreux, des patriarches, de Moïse et des prophètes, et de leur conception de l'être humain. L'être humain, suivant ce message, est formé d'une nature animale inférieure, nature faite de désirs instinctifs visant à l'autosatisfaction ou à l'expansion, désirs ne connaissant ni le bien ni le mal, ni le juste ni l'injuste, sous-tendu par l'instinct sexuel de jouissance corporelle. Et d'un autre côté, la partie divine par laquelle l'homme a été fait à l'image de Dieu, partie divine qui a dicté à Abraham le message d'amener sur terre le Mishpat et la Tzedaka, c'est-à-dire le droit, la justice et la charité, et qui a été inspiré par la vie émouvante de Jacob,
symbole de l'amour de l'homme pour sa femme, amour qui préfigure l'amour de Dieu et la vie éternelle. Dans cette optique, l'inspiration divine ne vise pas à détruire la nature, ni, comme dans la vision de Saint Michel, à écraser le dragon qui est dans l'homme, mais à élever et à humaniser cet animal par l'inspiration divine pour transformer son cœur de pierre en cœur de chair. Mais notre époque, aveuglée par l'orgueil des progrès techniques, s'est détournée de cette inspiration essentielle. D'un côté, Freud a rétabli la divinisation de l'instinct, du désir de la nature animale de l'homme. De l'autre, Carrel a introduit l'idolâtrie biologique avec la divinisation de la force et le rejet des faibles. De l'autre, on a déformé la justice en la réduisant à l'envie et à la revendication des masses, au lieu, suivant l'expression de Babinski, de la soumettre à la vérité, à cette vérité exaltée dans les psaumes, et qui soutient ceux qui tombent, guérit les malades et libère les opprimés, à cette vérité, seule source de la paix, de la vie et de l'épanouissement des sociétés humaines. Une science que j'aime bien. Les hommes scientifiques tenaient toujours un tel langage, ce serait vraiment quelque chose de très, très agréable. Alors, Henri Baruch, donc, de l'Académie de médecine, est lui-même un Israélite. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas très loin du Nouveau Testament. Peut-être a-t-il fait ce pas ou le fera-t-il, je ne sais. Alors, voyons toujours ce que nous dit ce professeur Henri Baruch dans un ouvrage, alors, Humanisme psychiatrique et histoire de la neuropsychiatrie, publié en 1983. Les faits que nous venons de rappeler montrent que l'homme présente une double nature, une nature animale marquée par les instincts, les désirs, le mépris des faibles, l'abus de la force, et une nature humaine spécifique, comprenant le sens du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de la charité et de la justice dont nous venons de voir l'importance dans les collectivités humaines. Cette nature supérieure est considérée par les croyants comme divine. Elle se manifeste dans l'homme par la conscience morale. Ainsi, deux forces peuvent s'opposer ou, au contraire, collaborer. Et ce langage vous fait penser à Galates, chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 17, nous pouvons lire maintenant. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la chair. Sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi des points contre ces choses. Il est intéressant de recevoir ce témoignage d'un homme, Henri Baruch, qui le déduit de ses recherches expérimentales avec son collaborateur Babinski. Voilà une importante concordance, je pense, qui apparaît là entre la Bible et la science. Elle n'est pas, bien sûr, l'avis de tous, mais il est intéressant qu'elle soit l'avis de quelqu'un du monde scientifique. Voyons encore ce que ce professeur pense de Freud et de la psychanalyse. Freud nie l'existence de la conscience morale et ramène ce qu'on désigne sous ce terme par un « surmoi social ». Pour lui, tout vient du désir, même dans la douleur, du deuil et dans la perte d'un être aimé. Il pense qu'il devait exister dans l'inconscient un désir de faire mourir l'être aimé. Les psychanalystes interprètent le sacrifice d'Abraham non comme une épreuve divine, mais comme l'impulsion d'un mauvais père détestant son fils dans l'inconscient. Sans entrer dans plus de détails que nous avons exposés ailleurs, on peut conclure que la psychanalyse et le freudisme représentent le veau d'or du XXe siècle. Parlons maintenant, si vous voulez, un peu de la physique moderne. Là, on fait rappel ici à un ouvrage du physicien Jean Charon, c'est-à-dire un ouvrage récent publié à l'occasion, après un colloque qui a eu lieu en début de septembre 1984 à Washington. Ce livre s'intitule « L'esprit et la science, imaginaire et réalité », publié par Albin Michel en décembre 1984. Et là, Jean Charon nous dit que les physiciens ont découvert l'existence de phénomènes représentables et cependant non directement observables. Il n'est pas impossible de les décrire, ils sont représentables, dit-il, mais ils ne peuvent faire l'objet d'une observation directe, c'est-à-dire ne peuvent être représentés comme quelque chose d'étendu dans l'espace et le temps qui nous entoure. Ce sont des objets qui ne peuvent qu'être pensés et représentés comme tels. Ils doivent figurer dans la représentation de l'univers pour qu'elle soit complète. Et je le cite, « d'où la conviction qui se fait nouvellement jour en physique » que la représentation de l'univers doit comprendre à la fois l'observable et le non-observable. Ça, c'est tout à fait nouveau dans l'orientation de la pensée scientifique. Et on peut dire que ça bouleverse même les prétentions de la notion matérialiste. Il n'est pas nouveau, il y a bien déjà peut-être deux décades, une vingtaine d'années, que certains scientifiques ont cherché à s'évader du cadre limité que la science s'est donné, comme notre frère l'a exposé, et cherchaient à adjoindre aux recherches qui s'opèrent dans le cadre de l'expérimentation, de l'observation, de l'expérimentation, ne chercher à joindre l'irrationnel. Il y a eu des ouvrages à ce sujet qui datent déjà de peut-être 15-20 ans sur cette tendance à rechercher une issue du côté de l'irrationnel. Mais jamais, à ma connaissance, on avait exprimé ce que je viens de vous lire. Disons un mot de la psychologie moderne. La Bible nous enseigne la nouvelle naissance, vous le savez, venant après le dépouillement du vieil homme ou le renoncement à moi. Que celui qui veut venir après moi, disait Jésus à toute une longue théorie de gens qui le suivaient, que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement à soi, nous le trouvons encore exprimé dans Éphésiens 4, chapitre versets 20 à 24, et dans Matthieu 16, par le Seigneur Jésus lui-même. Or, n'est-il pas extrêmement intéressant d'entendre un professeur de psychologie à l'Université de Montréal, Jean Le Raide, alors toujours dans le même ouvrage, nous dire ceci. Le moi, c'est aussi la conscience hyper-rationalisée et intellectuelle, pseudo-intellectuelle, qui a étouffé l'intuition. Le moi, c'est le produit direct de la pensée objective, de la pensée scientifique, lorsque cette dernière fait de l'être humain un objet et le traite comme tel, au nom d'une objectivité valable en effet dans les sciences de la matière, mais mutilante et foncièrement irréaliste lorsque cette objectivité prétend appréhender la totalité de l'être humain. Elle n'en saisit que l'aspect extérieur, matériel ou social, et en ignore l'aspect intérieur, l'aspect subjectif, où l'être humain se révèle être un sujet. Le moi objectif, objectivisé, réifie l'être humain, c'est-à-dire en fait une chose, réifie l'être humain, le déshumanise, tue en lui les sources de la vie et de la créativité intérieure, tue en lui la fonction de l'adaptation au réel, en réduisant ce dernier au seul monde matériel, et à la raison, qui est le reflet de ce monde matériel dans les structures de l'esprit humain. Et Jean le Raide de conclure que la mort du moi, de ce moi dont il vient de parler, la mort du moi et la nouvelle naissance sont les conditions fondamentales d'un retour à la réalité perdue, d'un retour à une vision du réel et à une pratique de la vie réaliste et équilibrée. On pourrait, n'est-ce pas, évidemment, penser que voilà, tout ce monde s'approche de la doctrine biblique, enseignée principalement par le Nouveau Testament. Ce n'est pas pour cela, ce n'est pas, ils s'en défendent, ce n'est pas pour donner raison à la doctrine chrétienne et qu'ils parlent ainsi, qu'ils pensent ainsi, mais c'est parce que c'est maintenant une orientation qui se présente devant eux et qu'ils expriment une orientation dans laquelle ils veulent s'engager et aller plus loin. Voilà un accord. Je ne dis pas que ce soit la voie par laquelle tous ces penseurs vont arriver à la conversion. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas cela. Mais disons qu'il y a là un grand accord tout de même avec la doctrine chrétienne. Mort à soi-même et naissance d'en haut, dépouillement et revêtement. Ce que la Bible nous enseigne, ce psychologue en est convaincu sur la base, lui, des données de sa discipline. Voyons encore ce langage scientifique nouveau du physicien Jean Charron. Voici ce qu'il dit de la physique de demain. Une véritable représentation cohérente et globale des phénomènes étudiés en physique paraît donc devoir tenir compte de la triade du verbe, de l'esprit et de l'être. Non du verbe seul, ou même du verbe et de l'esprit seulement. Il faut les trois. Certes, l'auteur se défend, lui aussi, en son nom et en celui de ses collègues, de se tourner vers le domaine psychique ou spirituel. Mais il est fort curieux de constater tout de même cette disposition d'esprit concernant le devenir d'une science qui doit s'occuper des phénomènes extérieurs dans l'espace et le temps. En lisant les lignes de Jean Charron, là, je n'ai pu m'empêcher de penser à la divine Trinité qui a mis, en somme, sa marque en toutes les structures du monde qu'elle a créées. Et alors, il fait un schéma, Jean Charron fait un schéma, il trace dans le haut de la page, le haut du tableau, un grand cercle, au milieu de ce grand cercle, il met l'être avec un grand T. Et puis, alors, il y a des flèches latérales avec les termes la psychomatière. Dans le cercle
Puis en dessous du cercle, alors là, il y a encore une flèche vers le bas. Au milieu du tableau, il y a esprit avec un grand T, puis encore une flèche vers le bas. Et dans le bas, il y a verbe dans un cercle, un autre cercle. C'est assez curieux, évidemment. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'ils expriment, enfin j'espère qu'ils le savent, eux, mais on ne peut pas, il n'est pas facile d'ailleurs, certains intervenants dans ce colloque l'ont bien dit, mais ils sont tous quand même, ils paraissaient tous d'accord avec Jean Charon. Il y avait quand même en général un accord, puisque les communications sont suivies des discussions qui ont eu lieu après. Le mot âme, je vais encore vous dire quelque chose du mot âme. Alors là, selon le biologiste espagnol José Delgado de Madrid, qui est directeur du département de recherche, c'est un biologiste. Nous devrions retenir le mot âme comme un concept métaphysique traduisant une entité incorporelle, immortelle, avec des possibilités de se sauver ou de se damner, tout ceci en connexion avec une croyance et des considérations théologiques qui ne peuvent pas être prouvées ou reniées par les méthodes expérimental actuel. Le mot âme est clairement différent du mot mental. Voilà ce qu'exprime, je n'ai pas mis toute sa pensée, bien sûr, c'est un petit peu long, mais enfin, vous voyez que dans ce colloque de Washington, de septembre de l'année dernière, il y a eu quand même, n'est-ce pas, là, vraiment un éclatement, on peut le dire, des pensées dans lesquelles on enfermait les considérations venues de travaux scientifiques ou de recherches scientifiques, n'est-ce pas, il y a eu là, n'est-ce pas, une aventure vers le dehors. Je ne sais pas où ça va conduire, j'en sais rien. On le verra bien. J'espère qu'on le verra par la suite. Voilà. Eh bien, je ne vais pas aller plus loin. Nous avons dans cette rapide étude vu par conséquent certaines convergences. En conclusion, nous dirons, il y a bien sûr la science des faits qui est extrêmement intéressante et à laquelle nous pouvons très valablement, si nous en avons le goût, nous fouer, n'est-ce pas, nous intéresser, la science des faits. Et puis, il y a la science conjecturale, celle de toutes les interprétations, avec laquelle il nous est absolument impossible d'être d'accord. Mais la science des faits aboutit tout de même, voyez, à certaines concordances avec la Bible. Je terminerai en lisant dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen.